Est-ce qu'on peut revenir un petit peu à Compolibat?
Ah ben,
Parce que je voulais te demander.
ah oui.
La question que je me posais en t'entendant parler de Compolibat,
Oui.
c'était d'abord, les gens qui étaient là étaient de là. Enfin,
Ah oui, ah oui, ah
je veux
oui.
dire, c'était une population qui
Ah
était
oui, ah
stable
oui, ah oui, ah oui, ah oui. Alors
depuis
ça,
longtemps, ou est-ce qu'il y avait
non, 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 non. Alors
des
là,
gens de l'extérieur?
je peux te dire une chose, parce que si t'as mieux, je te prêterai un bouquin qu'a fait mon père sur Compoliba. Tu peux te dire, bon, je ne peux pas te dire le nombre exact de familles. Il y avait 508 ans, mais combien de familles? Dans une centaine, hein, pour simplifier les choses. Toutes ces familles étaient sur des fermes qui n'avaient pas bougé depuis des siècles. Mon père a fait les études, tu sais, à un poil près, parce qu'il y en
Oui.
avait quand même avant. Mais toutes les familles qui étaient là, c'était depuis des siècles. Et certaines, depuis des siècles, sous le même nom, avec dans la filiation directe, tu sais, parce qu'il y en a beaucoup, il y avait que des filles, il y avait un gendre qui était venu, ça avait changé de nom. Mais tout le monde était là. Et ensuite, tout le monde était propriétaire. Dans toute la commune, il y a donc, disons, une centaine de fermes. Eh bien, il y avait juste deux fermes qui étaient en location. C'est tout. Alors, même pas, oui, si, deux, oui, et par accident, parce qu'il y en avait une que je la revois encore. Il y avait eu un divorce, et la femme était partie d'un côté, le mari était parti de l'autre, et bon, et la ferme était tombée en quenouille. Bon, mais alors, oui, c'était donc des gens, une population vraiment autochtone, hein, et enracinée là. Mais en même temps, tu vois, c'est amusant, parce que ça, c'est intéressant à noter. Parce qu'aujourd'hui, quand on te parle les problèmes d'immigration, etc., chez nous, il n'y a pas eu d'immigration paysanne. Mais nous avons eu des immigrants. Il y avait une carrière où on tirait de la pierre, et à l'époque, les types la cassaient, il n'y avait même pas de concasseurs, avec des marteaux comme ça, pour aller ensuite, comment on appelle ça, refaire les routes. Toutes les routes étaient empierrées, il n'y avait pas de goudron. Eh bien là, c'était des Espagnols. Ça a toujours été des Espagnols. Moi, de toute mon enfance, j'ai vu des équipes d'Espagnols venues de la Galice, venues du fin fond de l'Estrémadure, tout ça. Et alors, quelque chose, alors c'est ça qui est intéressant à noter. Ces gens-là, il n'y a jamais eu la moindre anicroche avec la population. Jamais, jamais. La seule chose qu'il y a eu, c'est qu'ils ont quelquefois épousé des filles du pays. Et ils sont restés. Mais il n'y a jamais eu la moindre anicroche. Ils mangeaient à midi chez ma grand-mère, parce que ma grand-mère, comme toutes les femmes d'artisans, avaient commencé par ouvrir un petit bistrot, parce que les types qui venaient faire ferrer leur bœuf ou leur cheval, on boit un coup, et puis quelquefois on reste à manger, etc. Et ces gens-là, moi je les ai vus, il n'y a jamais eu la moindre incident, rien. Et au contraire, des choses assez étonnantes. Moi, je me souviens avoir vu un jour, ma grand-mère, je ne sais pas qui c'est qui lui avait donné l'idée de ça. Elle s'était payée un de ses phonographes, c'est la voix de son maître, tu sais, là, avec un pavillon énorme comme ça, et avec un saphir et un truc qui tournait à 78 tours, là. Et alors, c'était le patron de ces types. C'était pas un des ouvriers qui était là, qui venait périodiquement pour les payer et voir aussi. Il y avait un type, un contremaître qui surveillait les gars qui travaillaient, et puis il y avait ce patron qui devait avoir d'autres chantiers comme ça. Et alors ce type-là, ayant vu que ma grand-mère avait ça, il avait apporté des disques de moi, à l'époque, pour moi, c'était, j'avais pas compris, j'avais 9 ans, moi 8 ans, j'avais pas compris ça, de flamenco.
Ah oui.
C'est là-bas, d'Andalou. Alors, je me suis arrivé, il écoutait ça et il pleurait. Alors, moi, sur le moment, je n'ai pas compris, mais aujourd'hui, je comprends. Mais pour te dire comment c'était, là, ils mangeaient, donc ils étaient en pension chez ma mère, chez ma grand-mère, mais c'était mon grand-père qui présidait la table. Il y avait pas, c'était une table d'hôte, tu sais, comme toutes les auberges d'autrefois, c'était mon grand-père qui présidait la table. Et alors, il y avait des liens d'amitié qui se faisaient avec les gens. Moi, le jeudi, je voyais quelquefois, ou dans la semaine, arriver, mais je me souviens, un jeudi précisément, est arrivé, il l'appelait Papette, et Papetto. C'était celui qui était, comment je peux te dire, le responsable du groupe. C'était le plus âgé. Il tenait le compte des heures et des journées en faisant des osques sur le bois.
Ah oui.
Et alors, bon, je sais pas. Ah ben, il avait dû venir à Villefranche voir son patron, il avait vu un truc comme ça. Et mon grand-père, il lui avait dit, tu vas à Villefranche, tiens, mais tu me porteras ça à mon petit-fils qui est au collège. Alors, il vient. Et alors, il me prend et il m'offre, je ne sais pas quoi, une grenadine dans un café. Et il était heureux, ce type-là, tu ne veux pas savoir.
Oui.
C'était formidable. C'est pour te dire, tu vois, quand on parle d'immigration, bon, ça dépend dans quelles conditions, avec qui.
Évidemment.
Mais là, pourtant, c'était une époque, je te dis, d'avoir arrivé. Mais alors là aussi, si j'entre là-dedans, je vais te raconter des histoires, nous y sommes jusqu'à demain. Moi, mon grand-père, ça tenait beaucoup aux hommes. Mon grand-père a vu un jour arriver un type, il s'appelait Lestia, il était un Espagnol. Il n'avait que la chemise, son pantalon et une paire d'espadrilles. Il cherchait du boulot. Et mon grand-père lui dit, tu veux du boulot? Ben viens chez moi, tu m'aideras là. Et alors, bon, il n'avait aucun papier, ce type. Alors, les gendarmes, un jour, débarquent. On nous a dit que vous aviez chez vous un type. Qui c'est, ce type? Il s'appelle Étienne. Et d'où vient-il? Alors, il donne le nom de village parce que personne ne le connaissait. Mais vous n'avez pas de papier? Et non. Ah, écoutez, il voulait le prendre. Hein. Mon grand-père a foutu la paix, il est brave, il n'embête personne, moi, il me rend service. Mais il faut qu'il régularise ces choses, il faut qu'il fasse venir ses papiers. Alors le sien, il est plein de bonne volonté, il dit, mais moi je vais aller les chercher, mes papiers. Et il repart pour ne laisse pas aller chercher ses papiers. Et de 6 mois, on n'entend plus parler de lui. Il revenait jamais, mon père, grand-père, il reviendra pas, il s'est perdu. Et puis un beau jour, il revient. Et il n'avait pas les papiers. Il était arrivé à son pantalon, la mairie avait brûlé, il n'avait toujours pas de papiers. Eh bien, ce type, il a fini sa vie à Campolibat, à 85 ou 86 ans. Alors là, il gardait les vaches, tu sais. Moi, j'ai vu des cas comme ça, fantastiques. Le social, il se faisait tout bêtement dans ma home. Et alors, mais l'estiaire, oh mon Dieu. Alors, il y en avait un autre là. Je ne sais pas d'où il venait, celui-là, il était plutôt maladif, il ne pouvait pas travailler beaucoup. Il faisait, tu sais, il rendait des petits services. Eh bien, mais il était nourri, logé, blanchi. Il a fini ses jours heureux comme un roi, là. Bon, non, mais moi, je trouve ça, c'est très touchant, au fond, de voir ça. Parce qu'on retrouve là vraiment la fraternité des hommes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu, comme partout, quelquefois des algarades. Mais enfin, ce que je te dis là, ce n'est pas inventé, c'est authentique.